Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : Marcher par la foi.
Je propose que nous ouvrions notre Bible et nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Luc. Une histoire nous est rapportée qui est très intéressante pour fonder notre foi et nous amener à faire des expériences spirituelles. Donc j'ai dit Luc chapitre 8 et au verset 40, j'ai sous les yeux ce texte que je lis maintenant. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. » Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun et pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Voilà un récit qui n'est pas passé inaperçu puisque nous savons que ce rapport, le rapport de cet événement, il nous est rapporté par, à la fois par Matthieu, par Marc et puis enfin par Luc. Nous sommes en effet confrontés avec ce grand phénomène, si nous pouvons l'appeler ainsi, qui est la foi. La foi qui nous permet de toucher du doigt l'invisible de Dieu et puis d'obtenir le miraculeux, de voir le surnaturel se manifester dans notre vie. Et quelqu'un a écrit cette définition de la foi, il a dit tout simplement ceci, « Croire en Dieu, c'est avoir une confiance absolue et inébranlable dans ce que Dieu dit. Même si ce témoignage de Dieu, ce témoignage de Jésus-Christ, n'est appuyé par aucune preuve, même si tout semble le contredire. » Et c'est précisément autour de cette pensée que j'aimerais que nous allions à la découverte de ce cheminement de cet homme qui s'appelle Jaïrus et qui était venu pour une guérison et qui est reparti avec une résurrection. Donc nous touchons là au prodige que Dieu est capable de manifester dans nos vies. Et c'est vrai que cet homme a marché sans aucune preuve, sinon ce que Jésus lui a dit. Et nous allons également cheminer avec lui, en quelque sorte, et prendre en considération que tout au long de ce chemin qui va l'amener vers la victoire, Jaïrus va découvrir une multitude d'obstacles qui va surmonter tout simplement dans cet abandon, dans cette confiance inébranlable qu'il met en Jésus. Nous voyons que si nous reprenons le texte, nous sommes confrontés avec toutes ces foules qui entourent Jésus, puisque nous l'avons lu il y a un instant, il nous est dit qu'il fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Alors, on peut toujours s'interroger pourquoi Jésus était attendu par ces foules aussi nombreuses. Certains y voyaient probablement un faiseur de miracles, un homme qui avait une capacité extraordinaire. Il venait pour le spectacle. D'autres venaient parce qu'ils étaient aux prises avec toutes sortes de souffrances et ils espéraient recevoir quelque chose de la part de ce prophète de Nazareth. Et puis d'autres, nous dit la Bible, venaient pour l'entendre. Ils étaient là avides de recevoir une parole qui pouvait transformer leur cœur et leur apporter ce dont ils avaient besoin. Mais on ne l'oublie pas que la foi vient de ce que l'on entend. Et nous voyons qu'encore, d'une manière très, très simple, le récit que nous avons devant les yeux nous montre que c'est sur ce que Jésus dit, que la foi grandit, que la foi se développe, qu'elle résiste à toutes les contradictions, à toutes les oppositions, et c'est ce que nous allons découvrir. Si je reprends le texte, il nous est simplement rappelé qu'il est venu vers Jésus un homme dont le nom nous est laissé, Jaïrus. Et ce n'était pas n'importe qui, puisqu'il était le chef de la synagogue, donc un personnage qui avait probablement une responsabilité religieuse de son temps. Et cet homme, par-delà peut-être les préjugés qui étaient communs à tous ses collègues pharisiens ou autres, eh bien lui est venu vers Jésus. Il n'est pas venu pour le juger, le critiquer ou en effet lui poser des questions captieuses, mais il est venu parce qu'il avait un gros problème. À tel point que cet homme va montrer sa foi et son humilité parce qu'il se jette aux pieds de Jésus. Et le fait de ce geste démontre en effet à la fois toute sa modestie, en laissant derrière lui probablement ce qu'il pouvait considérer comme une supériorité puisqu'il était chef de synagogue, et puis également un grand besoin puisque nous avons là cette assertion, cette affirmation, il nous est dit qu'il le supplia d'entrer dans sa maison. Jaïrus voulait que Jésus se rende dans sa maison parce que là, il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur, probablement d'une grande peine, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, et tout simplement avec cette nécessité de Jésus de se porter au secours de son enfant parce qu'elle se mourait, tout simplement. On peut comprendre la détresse de ce père de perdre son enfant, surtout qu'il nous est signalé que c'était sa seule fille, une adolescente. Et nous voyons que lorsque Jésus a entendu la demande de Jaïrus, il n'a pas répondu vraisemblablement, mais il a suivi cet homme. Et une petite nuance, une petite phrase qui nous est laissée, c'est qu'il nous est dit qu'il était pressé par la foule. Alors ça, nous sommes déjà confrontés avec un premier obstacle, c'est-à-dire ceux et celles qui entourent Jésus, ceux qui entouraient à ce moment-là Jésus, pouvaient véritablement faire un obstacle, cette foule qui suivait comme des badauds, des spectateurs, pouvaient constituer un obstacle, probablement pour Jaïrus, se frayer un chemin à travers la foule, atteindre Jésus, et puis de lui dire, maintenant tu vas venir à la maison parce qu'il y a une urgence, et nous savons que lorsque Jésus se déplace dans un sens ou dans un autre, c'est que tout le monde le suit. Et vous savez, une foule qui marche, une foule qui suit, c'est pas forcément une course. Et ça, probablement, c'est un écran entre le besoin urgent de Jaïrus, et puis Jésus qui va aller, mais il est suivi par cette foule nombreuse qui est là derrière. Et puis vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que, alors que Jésus se met en route, il va y avoir une interruption, puisque une interruption dans cette marche. Alors il nous est simplement dit qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé beaucoup d'argent pour être guérie, mais qui n'avait finalement trouvé aucun soulagement. Alors cette femme est venue d'une manière très discrète, peut-être différemment de Jaïrus, mais elle s'est approchée par derrière et elle a simplement touché le bord du vêtement de Jésus. Et là, elle a senti la guérison s'installer dans son corps. C'était quelque chose d'immédiat, quelque chose de très fort probablement. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est que devant l'urgence, de la demande de Jaïrus, puisque son enfant était à l'extrémité, et puis cette femme qui attendait depuis 12 ans, ne pouvait-elle pas attendre encore un petit peu plus pour donner, eh bien, tout simplement, la priorité à la requête précédente? Il n'y a pas de commune mesure entre là un enfant qui va s'éteindre et puis cette femme qui souffrait depuis 12 ans, tout en prenant en considération que c'était un véritable malheur pour cette femme, probablement de souffrir depuis aussi longtemps. Alors elle est venue, elle a saisi la guérison comme ça, sans rien dire, et c'est encore un obstacle qui a été mis sur la route de Jaïrus, par-delà la foule qu'il faut traîner, qu'il faut qui accompagne, mais il y a naturellement cette femme qui va intervenir, puisqu'il nous a dit que Jésus s'est arrêté à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui devait être probablement terrible pour Jaïrus, parce que le temps pressait, et de voir Jésus s'arrêter, de voir la foule qui s'arrête, et lui devait se demander, mais il devait penser à son enfant, qui était en train de se mourir dans sa maison, et de dire, mais c'est une question de minutes, et pourquoi Jésus s'arrête-t-il? Pourquoi se met-il à l'arrêt, là, dans cette situation, pour se pencher sur la souffrance d'une femme qui souffre depuis si longtemps? C'est ce qu'on peut appeler les contretemps de Dieu. Et c'est vrai que parfois, dans nos urgences, dans nos souffrances, dans nos douleurs, eh bien, nous rencontrons aussi des contretemps. Il y a, comme nous l'avons vu dans le premier cas, des écrans, hein, des hommes, qui se mettent entre nous, notre souffrance, et puis Dieu, hein, Jésus en l'occurrence, dans le texte. Et ça, c'est quelque chose de difficile, naturellement, cette intervention. Mais lorsque nous sommes aussi souffrants, que nous avons des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et que là, Dieu semble ne pas répondre, ou Dieu semble s'arrêter, ou Dieu ne répond pas à la manière dont nous aimerions qu'il réponde, et surtout dans le temps. Et nous voyons que Jaïrus a dû certainement être pénétré de toutes sortes de pensées, hein, l'angoisse, hein, et le secours. Certainement, dans un premier temps, heureux de voir que Jésus avait entendu sa demande et qu'il se mettait en route, et puis tout à nouveau, eh bien, tout le monde s'arrête. Et quelquefois, eh bien, c'est déconcertant, c'est déroutant, alors que nous avons crié à Dieu, que nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose et d'un seul coup, plus rien du tout. Et c'est l'arrêt complet et total. Alors, probablement dans le cœur de Jaïrus, il y a eu comme un vacillement, et il a dû se dire, mais c'est fini, s'il s'arrête, hein, pour s'occuper de ce cas, eh bien, mon enfant va mourir. Et il devait certainement, les secondes pour lui devaient représenter une véritable éternité, en quelque sorte. Alors, les choses se passent ainsi. Et puis, voilà, cette femme est guérie, elle s'en va, tout le monde reprend la route. Jaïrus, certainement, en tournant les regards vers Jésus plein d'angoisse, en disant « Mais est-ce que nous allons arriver à temps ?» Voilà que le verset 49 que j'ai sous les yeux, eh bien, nous dit « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Alors ça, c'est un coup de poignard dans le cœur de Jaïrus, parce qu'il avait à peine fini avec cette femme, et puis dans ce qui nous est présenté, nous voyons que là, à ce moment-là, eh bien, quelqu'un, un de ses serviteurs, des serviteurs de sa maison, est arrivé probablement avec une triste figure, et pour annoncer la nouvelle, puisqu'il nous est simplement rappelé que ce serviteur s'est tourné vers Jaïrus, son maître, et lui a dit, c'est désespérant, mais il lui a dit cette parole, « Mais ta fille est morte. » Quel remords et quel regret pouvait avoir ce père, de ne pas avoir peut-être pris Jésus par le bras et de l'avoir entraîné en disant « Il faut aller plus vite, parce que mon enfant va mourir, elle est à l'extrémité. » Et cette nouvelle vient finalement confirmer que ce contretemps de Dieu, cette foule qu'il faut traîner, qui alourdit la marche, alors tout ça c'est certainement la cause, hein, tout cela, eh bien, c'est la responsabilité si cet enfant est morte. Donc il entend ces paroles « Ta fille est morte ». Alors maintenant, ce n'est plus la peine d'importuner le père. Tu peux dire à Jésus qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il fasse là, qu'il aille où il veut, mais ce n'est plus la peine d'aller à la maison, parce que ça ne sert plus à rien, puisque là, nous sommes confrontés devant une situation irréversible, la mort, tout simplement. Jaïrus, et c'est ce que nous suggère le texte, doit faire face à un autre obstacle, l'obstacle de la raison, devant la foi. Parce que ça, c'est quelque chose de profondément dissuadant. Si nous commençons dans notre cheminement spirituel, dans notre marche de foi, et que là, à ce moment-là, eh bien, notre intelligence, la logique, les réalités de la vie nous frappent, alors nous risquons de sombrer, nous risquons, en tous les cas, de tout perdre. Parce qu'entendre cette parole « ta fille est morte », c'est vrai que, humainement parlant, il n'y a rien à faire. C'est fini maintenant. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque l'homme dit « c'est fini », Dieu nous dit « il y a encore de l'espoir ». Il y a encore, en effet, de l'espérance. Et c'est cet obstacle de la raison qu'il faut dépasser pour aller plus loin, pour eh bien, continuer la route. Et je crois que ce que nous avons besoin de demander à Dieu et ce que nous avons besoin de travailler peut-être dans notre démarche de foi, c'est que notre logique, nos raisonnements, notre raison ne viennent pas tuer notre foi. Parce que si on s'arrête là, eh bien c'est fini. Imaginez-vous que Jaïrus se tourne vers Jésus et lui dise « mais il n'y a plus rien, c'est fini, alors c'est plus la peine de m'accompagner ». Mais nous voyons que Dieu est rempli de compassion parce qu'il connaît notre fragilité, il connaît notre faiblesse. Il sait qu'il y a toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de contretemps, toutes sortes de situations raisonnées et raisonnables qui nous font dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus avait certainement vu que Jaïrus était près du précipice et qu'il était certainement en train de chuter. Alors Jésus a prononcé ces paroles, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, une des plus belles paroles de l'Évangile qui stimule notre foi, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, nous atteignons le paroxysme de la douleur, que dans nos combats et dans nos luttes qui nous mènent à la victoire, il semblerait que Dieu n'intervienne qu'au dernier moment. Au moment où nous sommes prêts, eh bien, tout simplement à tomber, à tout abandonner. Et Jésus, qui connaît notre faiblesse, qui connaît la nature de notre cœur, qui connaît nos troubles, alors à ce moment-là va prononcer cette parole extraordinaire « Ne crains pas, crois seulement, et il affirme, elle sera sauvée. » Ça, ce sont des choses, ce sont des perles que nous pouvons serrer dans notre cœur. Ce sont les trésors de l'Évangile. Et si Jaïrus a pu remonter, finalement, surpasser l'obstacle de la raison, c'est parce qu'il a entendu Jésus lui dire ces paroles « Ne crains pas ». Nous avons un immense combat à mener contre nos craintes et contre la peur. Je dirais que la peur, c'est le contraire de la foi. Et c'est quelque chose de très difficile parce que la peur, elle nous amène précisément au raisonnement, à faire fonctionner notre intelligence, mais pas dans le bon sens, à l'envers. Alors, il va le tranquilliser, comme nous le trouvons très souvent d'ailleurs dans les évangiles, où Jésus s'adresse à des gens troublés, effrayés, complètement décontenancés, désespérés. Il donne toujours en premier ses paroles, cet encouragement de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Ne crains pas, mais crois seulement. Ça, c'est la contrepartie. Il y a l'inquiétude d'un côté, l'angoisse d'un côté, et puis il y a la foi de l'autre. Crois seulement. La seule chose dont Jaïrus a besoin, c'est vraiment de mettre tout le poids, toute la force de sa foi, eh bien dans ce que Jésus lui dit, d'abord de chasser la peur, de chasser la crainte, et de retenir cette bouée de sauvetage que constitue cette autre expression, elle sera sauvée. On le comprend, elle sera guérie, pouvons-nous l'entendre. Et là, plus encore, elle sera ressuscitée. C'est-à-dire que Jésus fait appel encore à une plus grande foi pour Jaïrus, puisqu'il sait qu'elle est morte. C'est une réalité, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais là, c'est qu'il faut dépasser le stade de la logique, que quand quelqu'un est mort, il est mort, tout simplement. Et que quand quelqu'un est mort et que Jésus dit qu'elle sera sauvée, c'est qu'elle va ressusciter. Et il n'y a que le pouvoir de Dieu pour le faire. Donc, Jésus lui laisse, eh bien, en quelque sorte, cette ancre pour qu'il accroche son âme dans la tourmente et dans la tempête, pour qu'il surmonte l'obstacle, finalement, eh bien, de la raison. Et puis, nous continuons le chemin avec Jaïrus. Et il est troublant, il est mouvementé, ce chemin. Et Jésus a raison de nous parler dans le Sermon sur la montagne, que celui qui veut le suivre doit marcher dans un chemin étroit et resserré, et qu'il y en a peu qui le trouvent. Il n'y a que ceux qui ont la foi. La foi, au même titre que Jairus l'a eu. Alors, on continue ce cheminement, et nous voyons que le verset suivant nous dit « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père, à la mère de l'enfant. » On a déjà fait un peu de parcours. La foule qui fait écran, cette femme à la perte de sang qui est l'image du contretemps, contretemps de Dieu, qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu s'arrête-t-il? Et puis, l'obstacle de la raison. Mais voilà qu'ils arrivent quand même à la maison de Jaïrus. Et Jésus va dégager cette foule bruyante, cette foule encombrante, toutes ces choses qui sont là pour troubler, pour, enlever. Eh bien, là, ce qui est propice au développement de la foi. Et Jésus va séparer, en quelque sorte. Il va mettre de côté le père et la mère, il va mettre trois de ses disciples, les autres partiront ailleurs. Et puis, tout le reste de la foule, eh bien, il n'en tient pas compte. Il va mettre en quelque sorte de l'écart entre tous ces gens qui sont là en train de regarder, qui sont là comme des curieux, peut-être incrédules, et qui alourdissent l'atmosphère. Mais ça ne tardera pas. Puisque la suite nous dit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle, alors Jésus nous dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Nous avons encore un nouvel obstacle auquel Jairus pouvait s'attendre. Mais dans ce tourbillon, eh bien, il va être pris par ce qu'on appelle le tourment du sentiment, le tourment des affections, le tourment dévastateur. Parce qu'il ne s'agit pas de la tête, comme nous avons parlé en ce qui concerne la raison, mais il s'agit du cœur, et c'est sa fille. Et à ce moment-là, comme on peut s'y attendre, lorsque quelqu'un est mort, quelqu'un disparaît de cette vie, alors, dès qu'il va rentrer, il va s'apercevoir que tout le monde est en larmes et tout le monde se lamente. Alors, les lamentations, le monde entier les connaît, quand il s'agit d'une disparition d'un être cher ou de quelqu'un qui part. Mais là, il s'agit de sa fille, c'est autre chose. Et ce sont ses amis qui pleurent, ce sont ses serviteurs qui pleurent cet enfant qui vient de mourir. Et ça, c'est quelque chose qui était susceptible de le faire chavirer. Il a dû certainement voir sa femme, sa propre femme, effondrée peut-être sur le corps de son enfant. Et ça, c'est déchirant, c'est quelque chose qui peut nous faire capituler dans la foi. Qu'est-ce que nous devons écouter? Notre raison, nos sentiments, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est tout à fait humain et naturel. Et c'est bien pour cela que Dieu vient encore à notre secours. Parce que nous sommes que des vases de terre, et devant les brutalités de la vie, devant les tragédies de l'existence, que ce soit notre intelligence, que ce soit nos sentiments, ils sont capables, d'un instant, d'une seconde, de balayer finalement notre foi, de nous amener eh bien là à être complètement et totalement neutralisés. Alors, Jésus va reprendre une deuxième fois la parole, il va dire « Mais ne pleurez pas ». Et il va encore donner ses promesses, cette affirmation, cette certitude qu'il va se passer quelque chose. Et même dans l'instant, il dira « Mais elle n'est pas morte, mais elle dort. » C'est peut-être un mot qui nous surprend lorsqu'il dit « Mais ne pleurez pas. » Et c'est vrai que devant cette tragédie, devant cette chose épouvantable qu'est la mort, les hommes pleurent. Et Jésus, lui, l'affirme assez souvent d'ailleurs, quand il s'agit de ce cas, quand il s'agit de cette pauvre mère qui vient de perdre son enfant, son fils unique, à Nain, la ville de Nain, il va lui dire la même chose. Jésus dira la même chose, en quelque sorte, au tombeau de Lazare. Ce sera toujours les mêmes paroles. Mais ne pleurez pas, pourquoi pleurez-vous? Et qu'il y ait une grande différence entre ceux qui pleurent, qui sont inconsolables parce qu'ils n'ont pas d'espérance, et ceux qui pleurent parce que la mort reste toujours quelque chose de déchirant et quelque chose de tragique, parce que ce sont des bien-aimés qui disparaissent. Mais néanmoins, il y a une grande différence, parce que celui qui met sa foi en Dieu, sa foi en Jésus, en l'occurrence, ce que nous voyons, c'est qu'il y a quelque chose après la mort. Ce n'est pas la mort, c'est qu'il y a une vie après la mort. Il y a une autre dimension. Alors, il le dira, mais elle n'est pas morte, mais elle dort. Et Jésus présente la mort comme un sommeil pour ceux qui croient. Pour ceux qui ont cette espérance au fond du cœur, c'est simplement un endormissement. Mais c'est pour vivre. C'est pour, finalement, rentrer dans une autre dimension. Et je crois que c'est une véritable consolation que nous pouvons avoir. Ça, c'est encore un obstacle. L'obstacle des sentiments. Notre cœur va-t-il nous faire chavirer? Est-ce qu'il va neutraliser notre foi? Alors que Jaïrus est près du but. Il est là, dans sa maison, et il se passe encore un autre phénomène. Alors il a saisi la main de cet enfant. Et quand il a affirmé que cette jeune fille dormait, ceux qui étaient autour, ceux probablement qui pleuraient, ceux qui étaient aux environs, eh bien, ont une réaction tout à fait négative, typique de l'incrédulité. Il nous est dit qu'à partir du moment où il a dit qu'elle dormait, il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Ça, c'est un obstacle terrible lorsque vous êtes dans la peine, lorsque vous êtes dans la foi, que désespérément vous êtes en train de gravir le sommet, la montagne pour atteindre le sommet, pour avoir la victoire, et que vous avez des gens qui sont autour de vous avec un petit sourire nacrois en disant « mais il est complètement fou ». Parce que vous avez remarqué avec moi, il nous a dit que, tout simplement, sachant qu'elle était morte, bien sûr c'est l'évidence, bien sûr la constatation était là, bien sûr la raison était aussi pour le prouver. Mais une chose qui est certaine, c'est que les gens se sont moqués à ce moment-là. Et c'est terrible la moquerie, parce que c'est une épée, c'est une flèche qui transperce finalement eh bien, notre cœur. Et nous sommes pris pour des gens qui sont fous. Parce que la foi, c'est de la folie. C'est vrai, il faut le dire. Croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Croire et espérer contre toute espérance. Ça, c'est de la folie. Mais nous avons vu, et nous le savons, l'Écriture sainte nous dit que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Et nous en avons l'exemple, c'est que ces gens voyaient bien qu'elle était morte. Mais Jésus dit, elle n'est pas morte. Et il va en donner la preuve d'ailleurs, qu'elle n'est pas morte. Et alors il se moquait de lui. Il n'y a rien de plus humiliant pour un homme qui est sincère dans son cœur, qui est authentique, véritable, qui est déjà aux prises avec un drame, une tragédie dans sa vie de voir des gens se moquer. C'est de l'irrespect total. Et c'est véritablement, en quelque sorte, l'opposition à la foi, c'est l'incrédulité. L'incrédule se moque, parce qu'il ne peut pas croire. Parce qu'il refuse de croire, parce qu'il pense que toutes ces choses, ce sont des choses qui sont eh bien, au-delà de la raison humaine. Alors, Jésus, à ce moment-là, ne va pas répondre à la moquerie. Il a saisi la main de l'enfant et il a parlé à cet enfant. Comment parler à un mort? Comment parler à cette petite fille? Alors, il va lui dire, « Enfant, lève-toi ». Je crois qu'il y a derrière ces paroles une parole d'autorité divine, une parole qui va traverser eh bien, la dimension du ciel. Et on constate qu'à ce moment-là, son esprit revint en elle. Le corps est un véhicule. Le corps avait cessé de vivre. Mais il y avait une dimension invisible qui était là, bien réelle. Invisible aux yeux des hommes, certes, mais bien réel, puisqu'à ce moment-là, il nous est dit que son esprit a habité tout à nouveau cet enfant. Et je crois que c'est quelque chose de merveilleux ce qui nous est révélé. C'est que notre corps n'est qu'une dépouille, n'est que finalement une enveloppe, mais le plus important, et c'est ce que Jésus veut souligner, c'est que chez les hommes, eh bien, il y a plus grand que le corps. Il y a l'esprit, et cet esprit revenu en elle, et à l'instant, elle se leva. Ça, c'est le miracle. Le mot est trop faible, je crois qu'il faut parler de prodige. Alors, elle s'est levée, et Jésus a ordonné qu'on lui donne à manger. On ne nous a pas dit de quoi cet enfant est morte. Peut-être d'une maladie qui avait duré une longue période, on ne sait pas. Mais si Jésus a pris cette précaution de faire venir la nourriture pour cet enfant, c'est qu'elle avait besoin de retrouver eh bien, certainement, des forces sur le plan physique. Mais je crois que, à travers cette nourriture dont il nous est parlé, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire et de voir en cet instant. C'est-à-dire qu'il y a une nourriture dont nous avons besoin pour soutenir notre foi. Ce n'est pas la nourriture matérielle, ce n'est pas la nourriture des hommes, c'est la nourriture de Dieu. Et je le mettrai en parallèle avec ce cheminement difficile, plein d'obstacles, plein de complications, avec des barrières partout autour de Jaïrus pour qu'il parvienne finalement au sommet de la montagne dans la victoire. C'est que, en tous les cas, Jésus, lui, l'a nourri de cette nourriture qui est là. Sa parole, les promesses de Dieu. Alors, c'est une petite digression que je suis en train de faire, mais quand même qui a sa signification. Il nous est dit que l'esprit est revenu et à l'instant il s'est levé. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui est arrivé. Alors, je crois que dans ce qu'il est présenté, dans ce texte tout simple, je m'étonne que ses parents n'ont été que dans l'étonnement. Il me semble que ce soit probablement pas un mot qui soit approprié. Je crois qu'il faudrait plutôt parler d'émerveillement. Parce que devant une telle manifestation du surnaturel, de la puissance de Dieu, alors à ce moment-là, l'étonnement, ce n'est rien du tout. Il faut parler d'émerveillement. Et Jésus a recommandé à ses parents de ne le dire à personne parce que il ne voulait certainement pas faire du spectaculaire. Vous savez, la foule était encore là. Elle était à distance, mais elle était encore là. Elle se nourrissait de tout ce qui, finalement, se voit, s'entend, se transmet les uns et les autres. Et c'est pas ça, la foi. La foi, elle ne se fonde pas sur la parole des hommes. Elle se fonde sur la parole de Dieu. Et cet homme, Jaïrus, est un grand homme. C'est un grand homme de foi. C'est un vainqueur de la foi. Parce qu'il a su être ce qu'un autre homme bien avant lui, qui s'appelle Jacob, a su dire, insister auprès de Dieu lorsqu'il était dans une période d'angoisse, alors qu'il sentait la mort probablement autour de lui, il dira « Je ne te laisserai aller, Seigneur, que tu m'aies béni ». Et nous voyons que si Jaïrus est un grand homme de foi, c'est parce qu'il n'a pas laissé les obstacles, il n'a pas laissé les barrières eh bien, au milieu de son chemin. Il les a contournées, mais il a pu les contourner parce qu'il a cru justement dans cette parole, dans ces paroles que Jésus lui a donné, il a pu passer la foule. Il a passé par-dessus les contretemps de Dieu, ou le contretemps des hommes. Il a passé par-dessus l'obstacle de la raison, il a passé par-dessus l'obstacle du sentiment, de la moquerie et de l'humiliation. Et c'est comme ça qu'il a reçu, et c'est comme ça qu'il a pu serrer tout à nouveau dans ses bras et embrasser son enfant, parce qu'elle était morte, et finalement Jésus lui a rendu la vie. Alors on peut le transposer dans bien des domaines, que ce soit dans nos problèmes de souffrance physique, c'était le cas, la maladie. Que ce soit dans nos problèmes moraux, lorsque parfois nous sommes au désespoir et que nous avons la mort dans l'âme et que nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir, aux prises avec cet état de dépression ou d'anxiété, où nous sommes profondément eh bien, malheureux, peut-être parce que nous sommes touchés d'un chagrin que nous ne pouvons pas surmonter, ou dans nos luttes, ou dans nos combats au niveau spirituel, peut-être contre le mal en nous-mêmes, le mal qui est autour de nous, et que nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir, et que nous avons le sentiment que la mort est là, alors une chose que nous avons besoin de savoir, c'est que nous avons besoin de revenir à ce que Jésus nous dit, à sa parole, et que nous ne nous arrêtions pas devant les obstacles, parce qu'il y en aura des obstacles. Il y aura toujours des obstacles dans notre vie. Et je dirais même à la limite, et je finis sur cette pensée, c'est que les obstacles sont faits non pas pour nous neutraliser, nous détruire, je dirais que les obstacles sont permis par Dieu pour fortifier notre foi. Parce qu'à chaque fois que nous passons un obstacle, nous prenons une victoire, et cette victoire nous amène à une autre victoire. À un autre obstacle, certes, mais à une autre victoire. Et je crois que, surtout, ne nous arrêtons pas sur ce chemin. On a un cas typique, on a un cas très intéressant dans l'histoire de Jaïrus. C'est que si nous allons jusqu'au bout, et que nous nous abandonnons complètement et totalement, que nous remettons notre vie, entièrement notre problème, notre difficulté, mais le Seigneur, lui, sait déjà à l'avance ce qu'il va faire, puisqu'il l'avait dit à Jaïrus, mais elle sera sauvée. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous dans le domaine de notre vie spirituelle, dans notre domaine de nos errances morales, ou peut-être de nos douleurs et de nos souffrances physiques, mais pourquoi pas nous? Si Jésus l'a dit, c'est qu'il faut le croire. et que nous pouvons le croire, et si nous le croyons, eh bien nous verrons s'accomplir. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci parce que c'est une belle histoire, une histoire de toujours, histoire pour tous les hommes, que nous nous appelions Jaïrus ou autrement, peu importe. Nous pouvons nous identifier, nous pouvons peut-être nous reconnaître dans, en effet, Seigneur, ce chemin qui est rocailleux, ce chemin qui est, en effet, périlleux, ce chemin où, mille fois, nous croyons que nous allons tomber, que nous allons chuter, et pourtant tu es à nos côtés pour nous dire, ne crains pas, crois seulement, je te demande maintenant de bénir ceux qui entendent ta parole, ceux qui reçoivent ce message dans leur souffrance, touchés par leur douleur, et qu'ils puissent, en effet, Seigneur, reconnaître, venir vers toi, et te dire, eh bien Seigneur, moi je vais aller jusqu'au bout, et je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas accabler, je ne me laisserai pas voler ce que tu as promis, puisque tu as dit que je serai sauvé. Alors merci Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans notre vie entière, merci Jésus. Amen.